Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut les amis.
Salut Charline.
Aujourd'hui, je suis tellement fière, on reçoit une star internationale.
Ah bah enfin, d'accord.
Une des plus grandes actrices françaises.
Ah, mais je sais, mais j'ai vu le film, celle que vous croyez de Saphine Ébou.
Exactement, et tu m'étonnes, c'est un thème pour toi ça.
Ah oui, c'est une femme plus âgée qui drague sur les réseaux un jeune, qui s'appelle Alex.
Ah oui, d'accord, c'est bon, tu t'es projeté. Toi,
mais c'est qui?
Je me suis pas projeté, j'ai compris le message.
Non mais c'est qui l'invité?
C'est
Juliette Binoche. Ah bah ça tombe bien, on est lundi. Et ben lundi sans viande et sans poisson, c'est elle qui a lancé l'opération.
Ah, c'est super, elle est écolo.
Ah bah je sais, je la connais bien, on a même tourné un film ensemble. Oh ben elle est super ma Juju, c'est une camarade de lutte quoi.
Quoi, il a tourné un film avec Juliette Binoche, je vais faire une syncope moi.
L'affaire du siècle ça s'appelait.
Un polar.
Oui si tu veux, mais l'assassin c'était l'État. Et d'ailleurs avec ma Juju, ben, on a attaqué l'État en justice.
Ah oui, à votre petite vidéo sur le net là.
Oh, on a fait quand même des millions de vues. Et on était pas loin d'avoir gain de cause avec Juliette et Marion.
Marion qui?
Ben Cotillard bien sûr.
Mais elle connaît tout le showbiz, mais ça va quoi.
Oh ben à notre petit niveau, on essaie de sauver la planète quoi.
Là, je pense que Guillaume a une longueur d'avance quand
moi,
même.
Moi qui pensais, mais que comme dans le film, le personnage s'appelait Alex. Puis moi j'avais arrêté de manger du saucisson, en tout cas le lundi.
C'est pas grave, Alex, mais... t'appelles qui, là?
Je m'en fous, j'appelle pour la semaine prochaine comme invité, Justin Bridoux.
Bonjour la France Inter, bienvenue dans l'émission qui visite le salon de l'actualité en s'arrêtant au stand de la blague. On peut avoir banni la viande de son assiette, acheter les pâtes et les graines en vrac, tendre vers le zéro déchet et utiliser des toilettes sèches. Tout cela sera ruiné par un seul vol en avion. C'est l'un des petits arrangements avec notre conscience écolo.
J'éloigne un avion privé, j'essaie de faire l'aller-retour dans la journée.
Il faut absolument que tu sois rentré pour la grande conférence de Shugaku.
Écoute Charlotte, je fais le maximum.
Les Français ne se passionnent pas pour les élections européennes. 55% des électeurs envisagent même de s'abstenir, tandis qu'Europe Écologie Les Verts se lance à corps perdu dans l'élection derrière Yannick Jadot, qui a décidé d'y aller tout seul sans la gauche.
Il bluffe. Pas sûr. Si, il bluffe là, ça se voit tout de suite.
Ça y est, nous en sommes arrivés au point où les 18-34 ans ont subi plus de chirurgie esthétique que les 50-60 ans. Ça signifie que la chirurgie ne s'emploie plus à rajeunir, mais à transformer nos visages pour ressembler aux influenceuses d'Instagram et de Snapchat. Joue là comme Nabila avec ses nibards.
Bah, à base, je voulais qu'il soit plus gros que mon visage, mais il n'y avait pas de prothèse qui existait, alors... J'ai fait un peu avec ce qu'il y avait, hein. C'est pour me retrouver avec des Smarties.
Voilà. Toute tentative de transition étant savonneuse, je ferai sobre. Bonjour Alex Vizorek.
Bonjour Charline Vanhoenacker. Eh bien, autour de la table, belle équipe évidemment, à 17h20. Celui qui face à des gens de gauche tient des propos de droite. Et qui face à des gens de droite tient des propos d'extrême droite. C'est Pablo Mira, bonjour.
Pour résumer, salut Alex, salut Charline. Ruffin Junior. Aujourd'hui, je vais pousser un coup de gueule. La France est le pays le plus fainéant du monde. Les Français ont perdu le sens de l'effort et ça va des arrêts maladie dont le nombre explose aux allocataires du RSA qui cumulent les aides sociales, en passant bien évidemment par Luc Besson qui écrit son scénario après avoir tourné le film. À tout à l'heure.
À 17h30. Celui qui régulièrement va s'entretenir avec les bœufs, mais là au salon de l'agriculture. C'est presque normal. Bonjour Guillaume Meurice.
Bonjour à tous. Ben oui, je suis allé ce matin au salon de l'agriculture et je vais vous parler des conditions d'abattage des animaux et j'ai rencontré des gens bien concernés.
Pour être honnête, je m'en fous complètement.
Ah, bon, il y a encore un peu de taf.
Il y a eu du boulot. Et 17h40, celle qui a déjoué tous les pronostics vendredi soir après le Jupiter Show à Saint-Etienne, en étant la première à aller se coucher. C'est comme si Nadal était éliminé au premier tour de Roland-Garros, n'est-ce pas Juliette Arnaud? Bonjour.
Bonjour. Eh bien non, aujourd'hui je ne fais pas de livre. Je fais un film.
Un film?
Parce qu'il y a une autre Juliette dedans. Enfin, la Juliette.
Notre amie. Juliette.
Eh oui. Voici celle qui nous accompagne jusqu'à 18h. Je vous laisse nous annoncer de votre douce voix qui vous êtes. Vous êtes...
Juliette Binoche.
Ah ben
non,
voilà.
Oui. Non,
mais
oui.
France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek.
Bienvenue Juliette Binoche.
Merci.
Vous jouez dans Celle que vous croyez, le film de Saphine Bou qui sort en salle mercredi, qui est l'adaptation d'un roman de Camille Laurence. Claire a 50 ans. Vous interprétez Claire, elle est divorcée, deux enfants, un jeune amant qui la laisse assez vite tomber. Elle va le fliquer sur Facebook, tomber sur son colocataire qui a 25 ans, interprété par François Civil. Le draguer sur les réseaux, sous un pseudo, une photo de profil d'une jeune blonde de 24 ans, ce qui va mener Claire dans une spirale et jusque dans le bureau d'une psychothérapeute interprétée par Nicole Garcia. à qui vous dites, pour les gens comme moi, c'est à la fois, les réseaux sociaux, pour les gens comme moi, c'est à la fois le naufrage et le radeau. On surnage dans le virtuel, tantôt on est l'araignée, tantôt on est le moucheron. Pour les gens comme moi donc, cette héroïne Claire, pour les gens comme moi, quels gens? De quels gens s'agit-il?
Qui est... Eh bien, des gens, des femmes abandonnées par leurs maris qui sont partis avec des jeunes femmes qui recommencent tout à zéro. Vous savez, c'est comme la règle de loi, là, la règle de loi mm-hmm. où, ben, au milieu, il faut tout d'un coup revenir à la case départ. Ouais. Donc, mon mari a choisi de revivre enfin sa vie, une vie de voilà, avec une jeune femme et avoir des enfants, etc., etc. Et ça, eh ben, mon personnage ne le vit pas. Donc elle fait face à cette solitude, à cet abandon, et elle n'a pas du tout envie en fait de se laisser embarquer dans cette zone dépressive, et donc mmh. elle décide de se fabriquer une identité sur Facebook et de s'amuser aussi un peu d'une
au
autre
début,
façon.
Au début, elle est l'araignée. On parle d'araignée de moucheron.
Oui, oui,
au début,
tout à fait. Elle a une sorte de à la fois de légèreté, on va dire, mais aussi peut-être de vengeance. Enfin, c'est pas expliquer, mais enfin on peut le sentir et à partir de là elle va se prendre au jeu et elle va y croire. C'est d'où le titre, celle que vous croyez, mm-hmm. parce qu'on peut croire à toutes sortes de femmes différentes. Et d'ailleurs, on est très différentes si on le veut bien, finalement. Hein. Ça dépend ce qu'on a dans la tête et dans le cœur. Et on peut se transformer tout d'un coup en, bah, finalement, de vivre les choses plus légèrement jusqu'au moment où quelque part son destin la rattrape et il va falloir qu'elle fasse face à elle-même, parce que finalement la vérité la rattrape. Et là, elle plonge et elle a un certain courage en fait. Hein. Ce qui est aussi intéressant dans ce film, c'est qu'on voit que à un moment donné, elle est quand même professeure en littérature comparée, mmh. et on voit qu'elle a vraiment un savoir, elle a.
Oui, c'est ça. Elle est cortiquée. Elle est.
C'est une femme de savoir. Et tout d'un coup, quand on la voit avoir 4 ans et demi émotionnellement, parce que elle n'est pas du tout préparée à ce genre de sport qui est la solitude, tout d'un coup, ben on voit la différence des deux femmes.
Et... On l'accompagne dans son basculement et cette frontière entre le réel de sa vie et le virtuel dans lequel elle est emportée. Alors, votre partenaire de jeu, c'est d'abord le réseau social. Vous êtes souvent derrière un clavier, le son, beaucoup, le son des petites alertes, le son du clavier. Vous êtes derrière le téléphone. Le partenaire de jeu est longtemps invisible dans le film. Comment compose-t-on avec ça sans pouvoir s'appuyer sur un visage ?
Ah ben ça, c'est assez facile. Oui. Hein. Le téléphone, on en a plutôt l'habitude, hein, ouais. tous. Donc, c'est... Et puis, fabriquer une identité qui n'existe pas, quand on ne voit pas, c'est plus facile que quand on voit. Donc, cette voix-là, eh ben, elle essaie de se faire accepter avec cette voix qu'elle invente au fur et à mesure des conversations. Et puis, comme le langage, elle emprunte d'ailleurs ce langage. Ses enfants parlent un peu comme ça. Elle va, par exemple, crevard, c'est un mot qu'elle va emprunter à un de ses fils.
Elle s'inspire de ses adolescents.
Parce que très vite, vous utilisez une expression désuète et il vous répond qu'est-ce que ça veut dire? Je ne connais pas cette expression. Oui, mais là, vous dites attention, parce qu'il n'y a pas que la photo, il y a aussi tout le message qui peut passer, le non-verbal.
Oui, c'est ça. Et donc, elle doit s'adapter à cette génération, cette jeune génération, pour pouvoir se faire accepter et passer pour une femme de 25 ans. Mmh.
Vous avez lu et relu le livre de Camille Laurence. Est-ce que vous avez un peu mis votre patte dans l'adaptation et travaillé avec Safie Nebout, peut-être sur le personnage ou d'autres choses de l'histoire?
Oui, alors quand j'ai lu le scénario, j'étais très impressionnée parce qu'ils ont fait un travail magnifique, voilà, d'adaptation. Et puis c'est vrai qu'en relisant le scénario, il y a des phrases qui me sont comme ça, que j'ai trouvées merveilleusement synthétiques. Et par exemple, la première phrase que vous avez.
Pour les gens comme moi, les réseaux sociaux, c'est à la fois le naufrage et le radeau.
C'est une phrase, par exemple, que j'ai repêchée. Qu'il avait mise à un moment donné dans le scénario, qu'il a enlevé, mais que bon, sa fille, c'est quelqu'un qui a une écoute. Le metteur en scène, il a une écoute et on lui donne les arguments et il est tout à fait ouvert et il veut bien changer les choses si c'est dans le sens, en fait, de la sensibilité, de la compréhension de l'histoire.
Ce rôle, est-ce qu'il est accessible aux actrices qui ont peu ou beaucoup d'expérience. Il faut, y a un moment où elle danse, Claire danse seule, ivre, au milieu d'une foule. Il y a aussi une scène de, on peut le dire, hein, je pense, une scène de masturbation dans une voiture. Elle a pas de filtre à un moment, Claire.
Elle perd pied.
Et donc, pour une actrice, est-ce qu'il faut avoir un peu d'expérience, ne pas avoir peur du jugement et peut-être ne pas avoir peur du ridicule?
Si on peut pas sauter dans la piscine, c'est difficile. Ouais. Hein, on peut pas rester au bord.
Vous avez le sentiment d'avoir un peu sauté dans la piscine dans ce film?
Il le faut, dans tous les rôles, je dirais. Mais celui-là, en l'occurrence, si on a peur du ridicule, il vaut mieux changer de métier. D'ailleurs, de certains matins, je me le dis.
Quand vous mettez les casquettes.
Par exemple.
Celle que vous croyez, le film de Safine Bou, ça sort en salle mercredi avec Juliette Binoche, François Civil, Nicole Garcia, entre autres. Juliette Binoche avec nous et Iggy Pop de Passenger. Bien sûr, vous écoutez France Inter par Jupiter qui est autour de la table pour entourer Juliette Binoche.
Et bien malheureusement, à la fine équipe, Pablo Mira, Guillaume Meurice. Et heureusement, Juliette Arnaud est là.
Juliette, c'est le moment de l'information. On va se remettre bien d'équerre pour bien commencer cette émission.
Et le César va être attribué à...
Le journal de presque 17h17.
Et mon nomination même fait l'objet d'une brève au journal du soir à la RTB.
Et on commence par les titres.
Une erreur a permis à Alexandre Benalla et Vincent Crass de discuter en tête-à-tête au tribunal pendant une heure.
L'affaire Benalla, tu la mets dans un scénario, tu la soumets à Netflix, il te la retoque en disant que c'est trop gros pour être plausible.
Mediapart révèle qu'Europe 1 a fiché près d'un demi-million d'auditeurs avec des commentaires comme, je cite, « Pédale, gros con, fils de tut ».
Oui, et là on ne vous parle que du fichage après l'appel de Pablo Mira.
Il est bref.
Oui, j'ai fiché les auditeurs d'Inter, 100% d'entre eux, plébiscite. Cite les brèves, figurez-vous. Et on commence, parce que je pense que ça va vous faire plaisir, par une vidéo.
Au Parlement luxembourgeois, un jeune militant écologiste luttant pour la justice climatique et sociale, Brice Montagne, s'adresse aux députés.
Le rapport du GIEC détaille tout ce que nous devons faire et tout ce à quoi nous avons à faire. J'ai une question pour vous. Qui a lu ce rapport ? Si vous l'avez lu, je souhaiterais que vous leviez la main.
Aucune main ne s'est levée et il continue.
Ne pas lire ce rapport qui fait 32 pages. 32 pages le rapport destiné aux politiques. Ça vous empêche de faire avancer l'état de crise dans lequel nous devons entrer. Parce que la crise est déjà là, mais la réaction politique, elle, non.
Voilà, c'est QFD et c'est tellement rassurant de voir que dans les autres pays, les politiciens sont aussi impliqués qu'en France.
Revenons à cette affaire du jour. Oui. Mediapart révèle qu'Europe 1 a affiché près d'un demi-million d'auditeurs avec des commentaires comme, je cite, une voix de vieille pédale ou encore un accent du Maghreb ou encore séropositif.
Oui, apparemment, oui, Éric Zemmour avait été embauché comme standardiste à Europe 1 à une époque.
International, hier, des centaines de manifestants ont défilé à Alger et à Paris contre un cinquième mandat de Bouteflika.
Oui, et c'est amusant de voir des gens marcher contre un type qui ne marche plus lui depuis 10 ans maintenant.
L'Arabie Saoudite vient de nommer sa première femme ambassadrice aux États-Unis.
Oui, et si elle fait mal son boulot, elle sera lapidée au Ferrero Rocher.
Conformément à ses dernières volontés, Karl Lagerfeld a été incinéré en présence de Bernard Arnault et de la princesse Caroline de Monaco.
Assez ironique de finir en poudre quand on a passé sa vie à la Fashion Week.
Audience télé, hier soir, les bronzés font du ski sur TF1 ont battu Rabbi Jacob sur France 2.
Et oui, en ce moment, même les audiences télé sont antisémites.
Attention.
Oui, voilà. Et sachez que Marine Le Pen a probablement regardé France 3. L'idée de devoir choisir entre des juifs et des bronzés ne lui convenait pas du tout.
People, la star américaine R. Kelly a été officiellement inculpée de 10 chefs d'accusation pour agression sexuelle aggravée.
Et oui, et quand il sera dans la cour de promenade de la prison, il aura une bonne raison de chanter « I believe I can fly ».
Ah, quel joli jeu de mots.
Oui, j'avais aussi pensé à R. Kelly, ignoble personnage, mais je ne l'ai pas fait, évidemment.
C'est mieux.
Ah si, c'était pas
rien,
mal.
C'est bien. Oui. Santé, selon une étude, plus de 40% des blessures liées à l'usage de la trottinette électrique se situent à la tête.
Et oui, on ne le dira jamais assez, porter un casque. D'accord, ça fait ridicule, mais je suis bien placé pour savoir que quand un adulte fait de la trottinette, on a déjà une bonne avance. Alors un peu plus ou un peu moins, c'est pas grave.
Et des brèves.
Oui, cannibalisme présumé à Madrid, il conservait des morceaux de sa maman dans des Tupperware. Alors sans doute quand il recevait les gens à manger, vous allez voir, c'est une recette de ma mère.
Ouais, c'est.
Et la dernière Bretagne, un club libertin était à vendre sur Le Bon Coin. Et ce serait pas la première fois qu'on se ferait baiser en achetant sur Le Bon Coin.
Je l'ai laissé au fond, c'est comme chic. Ça.
Oui.
On me jugeait pas sur celle-là uniquement.
Oui. Élégance. À la
on récupère les auditeurs des grosses têtes en même temps.
Oui,
et comme ça, peut-être ils auront envie aussi d'aller voir celle que vous croyez avec Juliette Binoche, film de Safie Nebout qui sera en salle mercredi avec notamment François Civil, Nicole Garcia ou Marie-Ange Casta. Il est 17h25 sur France Inter. Juliette Binoche nous accompagne. On va aborder avec vous ce premier sujet qui va titiller nos consciences. Un vol Paris-New York envoie autant de CO2 par passager qu'une année de chauffage. Autant dire que tous nos efforts, nos gourdes là, n'est-ce pas, Juliette, ouais, Guillaume et moi, voilà. Ah, autant dire que tous nos efforts pour les lundis sans viande, des poubelles sans plastique s'envolent aussi dans le Paris-Lisbonne. Quelques petits arrangements trouvons-nous avec notre conscience lorsqu'il s'agit par exemple de partir en vacances.
Tellement content de quitter cette société de consommation. Oh mais vivement la Birmanie quoi.
Mais ouais, mais trop marre de voir tous ces occidentaux détruire la planète.
Salut Sébastien, ça va? C'est bon, on a mis les milites de kérosène, on a vidé les pompes à chiottes au-dessus de l'Atlantique, on peut se casser.
Parfait. Bon vol capitaine.
Ah, ciao la pollution.
Le Palma Show. Alors, face à l'avion, on est une génération low cost qui nous incite à prendre l'avion, peut-être pour beaucoup aller retrouver leur famille. On est à l'heure de la mondialisation, c'est aussi Erasmus où on crée des liens dans le monde entier, donc on est incité à prendre beaucoup l'avion. On est nombreux à devoir trouver des petits arrangements avec notre conscience. Par exemple, vous, Juliette Binoche, votre carrière internationale, votre amour pour le Japon, etc. Comment est-ce que vous vous accommodez entre la conscience écologique, parce que vous êtes devenue une égérie de l'écologie, du climat, et on vous en remercie tous pour ça, parce que ça donne un écho grandissant à la cause, bien sûr. Mais on est tous comme vous, on a, voilà, vous avez vos impératifs de travail, etc. Comment est-ce qu'on accommode nos consciences avec ça ?
Difficilement, j'avoue. Ouais. Difficilement, parce que ça fait forcément réfléchir quand on prend l'avion. À la fois, je pense qu'il faut vraiment choisir ses voyages. Mmh. Pour partir en vacances, je partirai pas loin. Je prends pas l'avion pour partir loin. Mmh. Ça c'est vraiment ça c'est la déontologie minimum que je peux avoir, mais par rapport à mon métier, au fait d'être international, de voir voilà aller dans différents festivals ou dans des événements importants. Où je peux parler aussi de l'écologie, et ça paraît contradictoire, effectivement, mais ça, c'est une contradiction difficile à vivre, j'avoue.
Mmh. Ouais. Mais est-ce que, justement, cette histoire de voyage, par exemple, c'est des chiffres très clairs, ça culpabilise fort l'individu, alors que peut-être, c'est tous ces individus ensemble, plutôt que de ne pas prendre l'avion, devraient peut-être voter pour des gens ou qui promettent des lois allant dans un sens plus global et plus universel. C'est ça que vous voulez peut-être dire quand vous vous impliquez dans les combats.
J'essaie au maximum, oui, de faire en sorte que les gens réfléchissent et puissent être le plus conscient possible par rapport aux événements généraux. Mais bon, il y a l'écologie, soit, mais il y a l'écologie aussi de faire attention à son voisin et d'avoir et de faire attention à ses pensées et à ce qu'on dit. C'est aussi ça l'écologie, hein. C'est pas seulement acheter bio.
Comme vous êtes porte-parole de tout ça, vous essayez au maximum, j'imagine, de mettre vos idées, vos convictions en accord avec vos pratiques. Est-ce que, par exemple, en tant qu'actrice dans le milieu du cinéma, c'est pas forcément évident. On a parlé des avions. Il y a peut-être aussi la mode, qui est le deuxième plus grand pollueur de la planète. Ou parfois même les grandes, alors ça c'est plutôt la mode
comment dire, prêt à porter, hein.
Oui, de enfin tout ce qui est H&M, etc. Il y a aussi les hautes maisons de couture qui font des, par exemple, faut voir les pierres précieuses, où sont-elles, où est-ce qu'on les
trouve,
etc.
Alors il y a vraiment des lois qui, comme Stella McCartney par exemple, elle a toute une philosophie écologiste également dans ses vêtements, etc. Il y en a beaucoup qui sont conscients de ça, et qui bougent dans ce sens-là. Chopard, je crois, fait vraiment attention à ces diamants et tout, à la façon dont c'est extrait, et ils sont, et c'était d'ailleurs les premiers. Donc il y a une conscience de plus en plus grande par rapport à ça, et
mais qui vous demande quand même une vigilance, j'imagine.
Oui, alors je vais vous dire, franchement, c'est mon styliste qui a la vigilance, parce que moi j'aurais pas le temps, j'aurais pas le temps d'avoir cette vigilance.
Mais il a la consigne d'être très vigilant.
La conscience lui-même de cette vigilance nécessaire. À la fois, il y a des erreurs aussi, je pense, mais quand ça bouge partout, hein, pas que dans un endroit.
Cette conscience, elle vous est venue par quelqu'un, ou vous l'aviez depuis très très longtemps ?
Alors moi, je l'ai eue, franchement, j'ai pas de mérite, je l'ai eue par ma mère, quand on est... Bon, c'est vraiment... j'ai vécu les années 60 avec le poulet sous plastique fumé et la purée mousseline avec le lait qu'on rajoute. Donc, j'étais vraiment cet enfant-là qui adorait, en plus, ce genre de nourriture-là. Et puis, ma mère est allée dans le Loir-et-Cher, et à ce moment-là, elle avait une conscience, parce qu'elle lisait les journaux et que on était entouré de fermes, et on a été dans les fermes bio, et on a discuté beaucoup avec les paysans. Et puis il y a aussi, j'avais des copains et des copines, fils et filles d'agriculteurs, et j'allais jouer chez eux, donc j'ai vu vraiment des différences, et ma conscience a pris pied à ce moment-là. Et puis en face de ma fenêtre, on habitait dans une ferme désaffectée, et devant mes fenêtres, il y avait des inondations. Et chaque année. Et en fait, j'ai compris par un de mes profs de sciences que c'était en fait le manque de haies qui ont été coupées dans les années 60 et qui ont fait que, en fait, s'il n'y a pas d'arbres pour récupérer d'abord l'eau, les nappes phréatiques s'assèchent parce que les racines permettent en fait vraiment à l'eau de s'infiltrer. Et puis toute la biodiversité que donnent les arbres, les feuilles et les oiseaux, les insectes, etc. Et le fait d'avoir coupé, c'est une catastrophe. Parce que on n'en parle pas suffisamment. Et c'est vrai, bon, je suis passée en avion récemment parce que je suis revenue de Berlin. J'aurais pu y aller en train, mais bon,
c'est très loin en train.
Il fallait revenir.
C'est aussi le sujet, c'est que le train coûte parfois plus cher que l'avion. Et il n'y a pas toujours des lignes. Et les trains de nuit n'existent quasiment plus.
Moi, il y a un bon truc pour s'arranger avec sa conscience, c'est qu'on peut compenser son bilan carbone en plantant des arbres, justement. Il y a des sites qui proposent ça.
C'est vrai.
Moi, quand je suis obligé de prendre l'avion, après, je compense. Et
Air France aussi. Arbres. Le
gouvernement devrait investir dans beaucoup de haies, beaucoup d'arbres.
On envoie Macron dans le Loir-et-Cher et on se rappelle qu'il n'y aura plus de tourisme dans un monde dévasté. Donc voilà, bon entendeur, 17h31 sur France Inter en compagnie de Juliette Binoche. Il est l'heure donc de passer la parole à celui qui a été flashé à 180 80 km/h sur l'autoroute de mon cœur. C'est vous, Pablo Mira. Pablo, mon petit ange trabu, ma petite boule de poil ibérique. Ouais. Aujourd'hui, vous nous dites que les Français ont perdu le sens de l'effort.
Ouais, ma louloute, la situation est grave. Ce pays a cédé à l'esprit de paresse. Les fainéants ont gagné. Et le sens de l'effort devient aussi rare qu'un sketch réussi à la cérémonie des Césars. L'expression même du sens de l'effort a disparu du vocabulaire des Français. On la retrouve désormais aux côtés de phrases oubliées telles que « Hey, ils sont quand même sympas ces Arabes !» ou encore « Tiens, je vais m'abonner à Canal !» un goût prononcé pour la fainéantise qui s'est traduit ce week-end, vous l'avez vu, par le tollé suscité par la ministre Jacqueline Gourault qui a eu juste le tort de proposer un impôt sur le revenu pour tous. Et c'était pourtant une bonne proposition. Chacun devrait pouvoir contribuer à l'impôt à hauteur de sa propre misère. Car l'idée derrière tout ça quand même, elle est profondément virtueuse. L'idée, c'est d'apporter plus de justice fiscale, pas d'étouffer les plus faibles, hein, ou ce que Gérard Depardieu appelle le missionnaire. Mais non, proposition refusée, ma petite louloute, refusée par Matignon. Par peur des Français qui refusent de faire le moindre effort, comme pour ceux qui touchent le RSA et puis qui refusent d'offrir des contreparties en échange. Et pourtant, moi, ça me paraît pas être un scandale qu'en échange d'un revenu minimum, les allocataires fassent une activité bénévole.
C'est oui, pas non plus. Allô, bonjour.
Ouais, allô, c'est qui?
Oui, c'est Gad Elmaleh. Pardon de vous déranger, mais j'ai entendu le mot vol à l'antenne, donc forcément, ça m'intéresse.
Non, j'ai dit bénévole.
Ah, d'accord. Eh ben autant pour moi, c'est pas grave, je trouverai un autre moyen d'écrire mon prochain spectacle.
Pas de soucis, Gad, on trouvera un moyen de ne pas le regarder. Et ce manque d'effort, vous voyez, il se ressent d'ailleurs dans le monde du travail, hein, suffit de voir le nombre d'arrêts maladie. Ah ben là, pour le coup, on est les champions, hein, c'est triste à dire, mais les Français sont les Johan Gourcuff du travail. Alors pour justifier cet absentéisme injustifié, les médecins ont inventé le concept du mal-être au travail, comme si le rôle du travail était de détruire des vies, hein. Et là, on nage en plein délire quand même. Le but du travail, voilà, c'est pas de rendre les gens malheureux. Ça, c'est le rôle du cinéma allemand. Mais il y a pire que ceux qui se mettent en arrêt. Il y a ceux qui préfèrent rester au chômage et de se plaindre de pas trouver de boulot. Et là, j'ai envie de leur dire, s'ils nous écoutent, bougez-vous, bon sang. Il y a des centaines de milliers de postes qui sont non pourvus. Changez de voie, au pire. Hein, quand on ne trouve pas d'emploi dans son secteur, c'est facile de se reconvertir. Hein, il suffit de faire un BTS absence d'ambition et hop, hein, on est prêt à accepter n'importe quel boulot, c'est la fameuse méthode Alexandre Devoise. Non, c'est cette absence de candidature dans certains secteurs, ça devient même inquiétant parce que c'est un phénomène qui touche toutes les professions, un temps soit peu difficile. Il y a notamment, on le dit, une grosse pénurie de candidats dans les métiers où l'on côtoie la mort, militaires, policiers, profs de ZEP. Mais vous savez, même dans notre vie de tous les jours, on est tous gagnés par la paresse, visiblement. Exemple, on ne fait plus rien nous-mêmes. On n'a pas envie de se faire à manger. Hein, alors on appelle des livrous et un type sous-payé vient livrer notre dîner. On n'a pas envie de taper des manifestants. Alors on appelle Benalla et un type surpayé vient livrer des tatanes. Pourtant, les efforts, ça paye les efforts, ma louloute. C'est comme ça qu'on atteint les sommets. La preuve ici même, dans ce studio, hein, aujourd'hui, on a deux grandes actrices, deux Juliettes, hein, une qui restera jamais associée aux Oscars et puis l'autre qui restera jamais associée au Ricard. Car réfléchissez un instant.
Qui est qui?
Vous devinez. Réfléchissez un instant. Si un objectif est trop simple à atteindre, on n'en tirera aucune satisfaction puisque la valeur de nos actions est proportionnelle à l'effort que l'on y consacre. Voilà, allez, normalement, j'ai plus qu'à citer Deleuze et insulter les femmes de plus de 50 ans et à moi le salaire de Yann Moix. Pour conclure, tous ceux qui se plaignent de leurs conditions de vie précaires ont tout intérêt à retrouver le goût de l'effort s'ils veulent survivre dans ce monde où seul le travail fait la différence. Car désormais, l'avenir n'appartient plus exclusivement à ceux qui se lèvent tôt, il appartient surtout à ceux qui n'ont plus le temps d'aller se coucher. Allez, salut.
Merci beaucoup, Pablo Mira. Nous jamais... Respectez-nous, Delgrès, qui sera bientôt notre invité sur France Inter, programmation musicale, Djoubaka, merci à lui. Juliette Binoche est en notre compagnie, celle que vous croyez, c'est le film de Safi Nebbou qui se rend salle mercredi. Juliette Arnaud va y revenir tout à l'heure, en attendant une séquence Salon de l'Agriculture avec Guillaume Meurice.
Ouais, je vais vous parler viande aujourd'hui, puisque Juliette, vous avez signé donc une tribune pour arrêter de manger de la viande le lundi. C'est un bon début, sauf si vous bouffez une andouillette dès le mardi matin. Voilà, sinon ça annule, je vous dis ça parce qu'Alex fait ça au petit déjeuner. Hein, l'odeur dans les couloirs, c'est pas un poney crevé, c'est Alex. D'ailleurs, en parlant de poney crevé, je me suis intéressé ce matin aux abattoirs, en toute objectivité, parce que j'ai pas trop d'avis là-dessus. Hein, est-ce que c'est une bonne idée de découper moitié vivant des êtres sensibles ou pas? Je n'ai pas d'avis. Donc on va voir ensemble, on va essayer de dépatouiller tout ça. Je suis allé au salon de l'agriculture, donc je suis allé traîner ma carcasse autour des professionnels de la barbaque, les dealers de cadavres, hein, les Tony Montana du gigot, pour leur demander leur avis sur la production de viande. D'abord, est-ce qu'on en mange trop?
Attendez, c'est les protéines, la viande, monsieur. Tous les médecins le disent.
Mais est-ce qu'il n'y a pas de protéines dans les végétaux également?
Ça, je ne sais pas, parce que je ne mange pas les végétaux, je mange de la viande. De la vraie viande.
Vous mangez aucun végétal?
Non. Que de la viande.
Ok, que de la viande, que de la viande, que de la viande. Là, on est vraiment sur un fondamentaliste de l'entrecôte. Hein. Le matin, il trempe son steak dans du Viandox. Hein, on est bien. Le futur prix Nobel du cholestérol. En route vers le triple pontage coronaria. Alors, ce matin, j'ai aussi rencontré des bouchers avec qui j'ai donc parlé des abattoirs.
Moi, j'ai eu l'occasion d'en visiter quelques-uns. Il y a quelques années, où que j'étais satisfait du travail, que c'était propre et tout.
Il y avait du respect des animaux.
Ceux que j'ai visités, il y avait du respect, oui.
Mais quand même, à la fin, on les découpait à la tronçonneuse.
Voilà, donc après, on est... quel plaisir de découper les belles bêtes, c'est sûr.
Ah bah, c'est vrai qu'il y a la notion de plaisir qu'on a tendance à oublier dans les abattoirs, quand le sang jaillit sur ton visage, bon, c'est vrai que c'est sympa. Quand tu vois les tripes qui dégoulinent dans tes bottes, bon, il y a du bonheur. J'en parlais d'ailleurs avec Nordal Lelandais, il est assez d'accord avec ça. Bon, lui, il travaille pas sur le même mammifère, mais c'est pareil, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Donc, il n'y a pas de souci dans les abattoirs, c'est confirmé par les professionnels de la viande.
Malgré tout le personnel qui est dans les abattoirs, le travail est plutôt bien fait, les animaux sont traités correctement, et là, bon, eh ben, on voit une image de temps en temps. En plus, je pense que c'est des images un peu trafiquées déjà.
Comment ils pourraient faire pour trafiquer les images?
Bah, écoutez, pareil qu'aujourd'hui, de nos jours, c'est possible.
On peut rajouter du sang, du faux sang.
Voilà.
Ouais, c'est vrai que le réalisateur des vidéos de L214, c'est Spielberg. Donc c'est vrai que ça fout le doute. Il y a certainement des effets spéciaux. La vidéo où le type découpe un diplodocus, c'est là que je me suis dit, à mon avis, ils vont trop loin, L214. D'où l'intérêt que l'État y place des caméras dans les abattoirs. C'est un amendement qui a été rejeté par les députés La République En Marche dans la loi alimentation. Qu'en pensent les pros?
C'est pas une bonne chose.
Pourquoi alors?
Mais je trouve que c'est pas nécessaire.
Mais alors pourquoi vous trouvez que c'est pas nécessaire?
Ça influence sur la consommation de la viande.
Vaut mieux pas que les gens sachent ce qui se passe dans les abattoirs?
Non, là-dessus, je peux pas répondre.
Ouais, c'est mieux que personne sache. Hein. C'est bien qu'il y ait aussi une part de mystère. Hein. L'amour, c'est ça, l'amour de la viande, il y a du mystère. Potentiellement, la vache bah, est peut-être morte d'une crise cardiaque. Il y a un employé qui est arrivé avec un t-shirt Gérard Larcher, paf, et s'est jeté contre le mur. On ne sait pas, il y a du mystère, donc faut pas non plus être anti-viande.
Après, les anti-viandes, il y en a très peu. Quoi. C'est un minime pourcentage qui pourrit la vie. C'est à peu près aujourd'hui comme le peu de gilets jaunes qui restent et qui pourrissent la vie de tous les autres.
Pas nous faire une polémique sur une polémique, ça va foutre le bordel. Là, on a perdu tous les gilets jaunes qui bouffent de la viande, qui savent plus s'ils doivent détester les pro-viandes ou les pro-Macron. Ça va devenir trop compliqué. Je crois qu'il est temps de se calmer et d'arrêter la stigmatisation des pros de la viande.
Je trouve ça révoltant.
Qu'est-ce qui est révoltant?
Qu'on attaque les boucheries, je trouve ça épouvantable. Bon, moi, j'ai vu des attitudes hostiles devant mes yeux.
Ah oui?
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Des jeunes femmes qui prennent un stand de boucherie et mettre en ligne avec un commentaire désagréable.
Putain, la violence. Oh, la vache. Ah, je suis à deux doigts d'appeler la LICRA. Je crois que je vais lancer un hashtag « Je suis cochonou ». Là, c'en est trop. Quel type de commentaire?
Ah, j'ai oublié. Mais enfin, c'était clairement. Puis des mimiques aussi, du genre « Le pouce en bas ».
Ça, ils sont passés devant le stand de boucherie en mettant le pouce en bas. Vous trouvez ça révoltant?
Je trouve ça révoltant.
Effectivement, ça me rappelle les heures les plus sombres de la charcuterie. Cette violence est insupportable. Allez, les viandards, ne faites pas comme les animaux que vous défoncez. Ne vous laissez pas abattre.
Merci, Guillaume Meurice. Au salon de l'agriculture ce matin.
Oui, on fait toujours des belles rencontres.
Et oui. Mais poursuivons un peu sur le thème plus politique. Les élections européennes intéressent peu les Français, dont plus de la majorité envisage de s'abstenir. C'est pourtant un scrutin majeur pour l'environnement, puisque l'Europe peut décider de sauver ou non les abeilles, de nous protéger ou non de Monsanto. C'est aussi une élection généralement favorable aux Verts, et c'est pas si souvent. C'est pourquoi Yannick Jadot décide de se lancer seul et promet qu'il finira la course à 15%. Il est comme ça, Yannick, pas vrai?
Moi, je suis un type qui a fait beaucoup pour l'écologie. Je vous assure, c'est vrai. Tiens, si je vous disais qu'il n'y a rien que j'adorais plus que les longues chevauchées solitaires dans les grands espaces verts. La communion intime avec la nature, l'extase des sens, un sentiment grisant de liberté. L'osmose, quoi.
Un extrait de La classe américaine de Michel Hazanavicius et Dominique Mézeret. Juliette Binoche, les élections européennes ne passionnent pas vraiment les Français. Pourtant, c'est le scrutin où les Verts font généralement leur meilleur score. Est-ce que pour le climat et l'environnement, vous vous mettez des espoirs dans l'élection, dans un Parlement européen un peu plus vert?
Bah, ce serait formidable. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Moi, je suis pas une connaisseuse de politique, hein,
de l'écologie politique.
De l'écologie politique, mais
faut dire que nous-mêmes, à part Yannick Jadot, à Europe Écologie Les Verts, qui est capable de citer malheureusement.
Je pourrais pas vous aider, mais vous avez l'air très au fait.
Karim Adeli, qui est une super députée européenne qui s'occupe des transports, qui fait un super boulot. Mm-hmm. Ouais. Et sur la liste là de Jadot, je sais pas qui il y a encore, mais je sais pas si elle est faite la liste encore.
Alors, lui est tête de liste déjà.
Oui, ça on sait, mais après, derrière, je ne sais pas si c'est.
C'est un ancien de Greenpeace qui était aux élections.
C'est pas Yannick Jadot, l'ancien de Greenpeace?
C'est possible, oui, c'est ça.
Donc, on a quelques. Heureusement, on a quelques éléments.
Il y a Julien Bayou qui fait aussi le bon boulot. Mm-hmm. Bon, non, on en connaît quelques-uns quand même.
Bien sûr, Monique Rani, Georges. Les favoris.
Il nous faudrait un président écologique.
Eh oui.
Écologiste, voilà. Parce que pas un ministre, mais un président qui soit conscient et qui prenne les décisions et responsabilise un peu nos consciences et que les députés prennent vraiment le temps des gros dossiers importants, les transports. Vous en parliez au début de l'émission. Il y a évidemment l'économie, hein, qu'est-ce qu'on fait des déchets industriels, et puis l'agriculture qui est quand même pollue la terre, les nappes phréatiques, l'eau, et qui nous pollue nous, et qui pollue notre santé. Donc c'est ces trois ministères qui doivent vraiment travailler ensemble, et il faut sérieusement prendre les choses en main.
Vous misez pas tout sur François de Rugy, quoi.
Qu'est-ce que vous avez pensé de la démission d'Hulot? Parce que peut-être vous l'avez entendu.
Ah, j'étais comme vous, je l'imagine.
Un moment de grâce pour nous.
Non, c'est-à-dire qu'il était tellement...
semblait sincère.
Il était totalement sincère et je crois tellement dépité lui-même de pas savoir quoi faire. Et c'est sa sincérité qui nous a tous retournés quand même et qui fait qu'aujourd'hui on en parle encore, parce que c'est vrai que face au manque de responsabilité, au manque d'action, c'est le manque d'action, c'est une action en soi.
Mais est-ce qu'il faudrait un personnage comme lui peut-être à la présidentielle, parce que le système français fait qu'il faut que vraiment on ait un personnage fort. Ici, les noms qu'on a cités, j'ai l'impression.
Mais je crois que ça va être une obligation. Voilà, c'est pour ça que c'est important de parler le plus possible dans les médias des problèmes écologiques, pour que les gens réalisent l'urgence dans laquelle nous sommes, et pour les générations futures. C'est pour ça que de voir ces jeunes le vendredi après-midi.
Oui, vous êtes allé manifester. Oui.
C'est le début, c'était vraiment le début, mais la première manifestation commence vraiment vendredi après-midi. Et on voit donc ces jeunes qui, en Allemagne, qui au Luxembourg, en Belgique, en Suède, en Angleterre, qui commencent vraiment à sécher les cours le vendredi après-midi pour aller manifester, parce qu'il s'agit de leur génération. Et
vous avez rencontré Greta Thunberg dans la manifestation?
Je l'ai croisée plus que rencontrée. Et je crois qu'elle est très habitée. C'est presque c'est une nécessité telle que elle arrive à brasser Et elle n'est pas seule. Hein. Il y a aussi beaucoup d'autres jeunes avec elle qui viennent de ces pays dont je viens de donner le nom.
Et qui circulent en train. Greta Thunberg, elle est allée à Davos en faisant 32 heures de train. Et quand elle est arrivée, elle a fait un discours où elle s'est confrontée à des gens qui étaient venus à 1500 jets privés à Davos.
Mais elle est arrivée deux semaines en retard.
Et Greta est venue avec 32 heures de train.
Ce qui était quand même très impressionnant vendredi dernier, c'est de voir le nombre de médias qui sont venus les filmer. Nous, on a beau faire dans tous les sens, les marches, les machins. On a quelques télévisions et radios et photos. Et là, mais il y avait un nombre insensé de personnes. Et je crois que c'est la jeunesse qui va changer les choses. Et ça me donne énormément d'espoir.
À nous aussi, Juliette Binoche.
Ils font ça le vendredi après-midi et pas le samedi. Ouais. Parce que la marche contre le climat, la dernière fois, il y a 3 semaines, il y avait les gilets jaunes en face. Que là, vendredi après-midi, rocking chair.
Effectivement. Et les jeunes bruxellois, ce sera le 8e jeudi, qu'ils sèchent les cours pour aller manifester. Allez-y les gars, on est derrière vous, avec Juliette Binoche. Juliette Arnaud, parlez-nous du film dans lequel joue Juliette Binoche, de Safine Bou, qui se rend salle mercredi et qui s'intitule « Celle que vous croyez ».
Et qui est l'histoire de Claire, une femme de 55 ans, en gros, qui se fabrique une nouvelle identité sur Facebook. Elle sera Clara, 24 ans. Je vous fais délibérément un résumé réduit aux aquets, parce que ce que je veux dire tout d'abord, c'est « Mon Dieu, mais quel pied de rentrer dans un livre qui baigne dans un film qui baigne dans les livres. » Enfin, qui baigne tout court. L'eau d'une baignoire d'abord, la mer sous la falaise d'Étretat, la pluie et un étang, de l'eau sous toutes ses formes, un coup favorisant la renaissance, un coup beaucoup plus inquiétante, mais on y reviendra plus tard. Restons dans ce bain de livres, et c'est bien naturel, le film est l'adaptation d'un roman de Camille Laurence, et c'est encore plus naturel puisque Claire, le personnage principal, est prof de lettres en cours. Elle traite des liaisons dangereuses de Chaudalot de Laclos à, premier indice, mais aussi de la maison de poupée d'Henrik Ibsen, qui raconte l'émancipation de Nora hors du rôle prédéfini par la société, à, indice numéro 2. Claire écrit aussi en travestissant un titre de Marivaux qui lui-même raffole du jeu du travestissement à, indice numéro 3. Sur son bureau, il y a un livre d'Antonio Lobo Antunes dont le nom est utilisé pour que Claire devienne Clara. Alors Antonio Lobo Antunes, immense écrivain et psychiatre portugais, indice numéro 4. Et dans la tête de Claire, il y a Marguerite Duras et sa phrase terrible dans l'incipit de L'Amant. Très vite dans ma vie, il a été trop tard. À indice numéro 5. Quelques indices de ci, de là, plus ou moins voyants pour te guider, spectateur. Les livres comme Chien d'aveugle, finalement, des indices auxquels tu ferais bien de te cramponner, parce que sinon, celle que vous croyez, c'est pas le Titanic. C'est-à-dire un film où tu connais la fin, tout le monde meurt, sauf les femmes et les enfants riches. Les femmes et les enfants. Ici, non seulement tu ne peux pas deviner la fin, mais tu ne peux rien deviner du tout. C'est un film où tu ne cesses de te dire « Ah !» et puis « Ah d'accord !» ou encore « Mais non !» T'es pas pris en traite d'ailleurs, hein. Le film s'appelle « Celle que vous croyez, la couleur est annoncée ». Ce que je n'avais pas prévu non plus, c'est que j'ai surflippé. J'ai eu peur pendant le film, j'ai eu peur pour Claire, et puis après j'ai eu peur à cause de Claire. J'ai flippé mais en bien, c'est-à-dire que j'ai aimé ça, avoir la frousse. Je le précise parce que je ne fais pas partie de la race de ceux qui aiment avoir la trouille au cinéma. C'est que c'est une passion somme toute très adolescente, et pour moi l'adolescence, c'était pas exactement la semaine dernière. Pour Claire non plus. Après tout, elle a 2 grands garçons et un mauvais divorce, un permis de conduire et des lunettes, elle a des responsabilités, elle enseigne à des jeunes adultes qui, eux, se souviennent lorsque sa mémoire à elle commence à lui faire défaut. Sauf que Claire n'a pas envie de renoncer au désir, à la passion amoureuse. Elle le verbalise même à sa psy. La psy, celle qui, par sa fonction, est la dépositaire d'un message qui ne lui est pas réellement destiné. Claire, elle dit, et c'est déchirant, « Il n'y a pas d'âge pour être petite. » L'amour fou chez une femme de 50 ans qui a l'heure d'aimer un jeune homme, c'est puissant et c'est déchirant. Au début de la chanson de Dinah Washington, « About the Boy », la voix de Dinah Washington, elle est comme ça.
Mad about the boy, and I know it's stupid to be mad about the boy.
Donc elle dit que c'est stupide d'être amoureuse de ce garçon-là, et lorsqu'arrive la fin de la chanson, la voix de Dinah Washington enfle jusqu'à se déchirer, jusqu'à nous déchirer.
I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad. About the boy.
Voilà, Dina Washington disait « Je me sens folle et jeune à nouveau, folle et jeune, folle mais jeune. La folie plus ou moins douce comme prix à payer jusqu'à la fin du bal, puisqu'il paraît qu'il faut bien payer les musiciens. » Merci, bisous, merci.
Juliette Arnaud, merci beaucoup Juliette. Une réaction Juliette?
Mais c'est vrai que c'est une histoire qui emmène et on peut avoir peur pour elle. Il y a un côté vertigineux, un peu voilà, thriller émotionnel. Ah ouais, ouais. Et moi-même, en lisant le scénario, j'ai ressenti ça, mais il fallait passer d'un personnage à l'autre sans avoir, enfin, il fallait qu'il y ait des différences, mais à la fois sans voir les coutures entre, de glisser d'un univers à l'autre, et c'est ça qui n'était pas évident.
Justement parce qu'on les voit pas.
Oui, on les voit pas.
On est terrorisés. Ouais.
Et puis, ce face-à-face, Juliette Binoche, Nicole Garcia, votre thérapeute aussi. Donc, c'est Celle que vous croyez, le film de Safie Nebou, qui sort en salle mercredi et que nous vous recommandons chaudement dans cette équipe d'ailleurs. Juliette Binoche, on va aborder ce dernier thème rapidement. C'est Snapchat qui permet de retoucher notre portrait, et bien la chirurgie esthétique aussi. C'est pourquoi, pour la première fois en France, les 18-34 ans font plus d'opérations esthétiques que les 50-60 ans. L'idée est de ressembler à son image digitale retouchée. Les médecins appellent ça la dysmorphie de Snapchat.
Aujourd'hui, c'est la dictature de l'apparence, mais c'est comme ça, faut vivre avec son temps. Tu sais qu'il y a une étude qui a montré que les moches réussissaient moins bien que les beaux. Moi, dès que j'ai de la thune, je me fais refaire les seins.
Oh, mais arrête avec tes seins, Tiffany, ils sont très bien, tes seins.
Quoi, il paraît que celles qui font du 95C, elles ont deux fois plus d'entretien et elles touchent 30% de plus. Moi, je veux juste mettre toutes les choses de mon côté, c'est tout. Et puis la chirurgie esthétique, maman, aujourd'hui, c'est banal. Une petite opération et hop, on t'enlève tous les défauts. Mes seins, ton nez...
Comme on est.
Fais pas ci, fais pas ça, la série de France 2. Voilà qui nous renvoie un peu au film. On se retouche en soi-même son portrait avant de le poster. On se ment à soi-même, on se transforme. On n'est pas tout à fait son avatar, mais un peu quand même. Et il y a des marques de cosmétiques qui commencent à travailler avec des égéries au visage transformé. Nous, quand on a découvert cette information, on s'est dit que c'était dingue parce que les 18-34 ans font plus d'actes chirurgicaux que les 50-60 ans. Donc, c'est pas vraiment qu'on veut y rajeunir, c'est qu'on veut y se transformer. Peut-être une réaction par rapport à ça. Avant, on regardait les images des actrices et on voulait ressembler aux actrices, etc. Aujourd'hui, c'est des influenceuses sur Snapchat. Est-ce que c'est quelque chose qui vous dépasse un peu, que vous avez du mal à appréhender comme nous ou...
Je trouve ça super triste. Et, ouais. Et voilà, moi, je pense qu'il faut rassurer et parler beaucoup, beaucoup. Les parents sont là pour ça aussi. Hein, Et puis sortir de ce monde enfermant qui est quand même, qui peut être les réseaux sociaux aussi. Chacun est dans son téléphone. Là, c'est quand même.
C'est un monde que vous connaissiez un peu ou vous avez découvert par le film, pour le film ou vous-même vous...
Non, moi je suis sur Instagram et je trouve ça plutôt ludique parce que ça permet de mettre des films ou des photos ou mettre des commentaires.
Et puis on vous demande aussi, j'imagine, par contrat pour les films, etc., de poster des choses.
Non, c'est pas demandé, c'est possible. C'est vrai qu'il y a une petite attente quand même, hein. Mais disons que c'est pas imposé du tout, hein. Après je fais ce que j'ai envie, mais disons que moi je trouve que c'est un moyen formidable, ludique d'abord, mais formidable de faire passer des choses, des idées qu'on a. L'affaire du siècle, c'est une chose en ligne.
À bon escient,
mais il y a aussi des choses d'actrice, et puis de parler de... Bon, c'est vrai que si j'ai fait un film que j'aime pas trop, je dirais pas trop le mettre sur mon Instagram, mais quand c'est pas le cas,
Juliette Binoche, on a une proposition à vous faire, j'espère que vous l'aimerez.
En fin d'émission, on propose toujours un sketch à l'invité pour jouer avec nous.
Ça finira pas sur Instagram.
Un rôle qu'il découvre, ça finira pas sur Instagram. Alors, on vous a donné un rôle de SDF, parce que la semaine dernière, Emmanuel Macron a participé à une maraude avec le SAMU social en toute intimité. Mais la photographe, quand même, de l'Elysée était là et a publié les photos hier soir. Guillaume est Emmanuel Macron, Charline, la bénévole du SAMU, Juliette Arnaud, la photographe de l'Elysée, et vous êtes dans la rue.
Attends, je vois, là. Ah oui, d'accord.
Bonsoir.
Oui, vous êtes
Soisic de la Moissonnière, photographe de l'Elysée.
Ah oui, monsieur le président, pour la maraude, on avait dit pas de journaliste.
Ah bon?
Bah si, vous aviez dit que...
Bah à quoi ça sert alors, s'il n'y a pas de photos?
Bah je sais pas, pour vous occuper des Français, des gens dans la précarité, ceux qui dorment dehors, quoi.
Ah oui, ouais. Bien sûr, mais on peut quand même faire quelques photos pour Insta.
D'ailleurs, monsieur le président, pour mes photos, ça serait quand même mieux si vous étiez en tenue décontractée.
Bah, je vais quand même pas m'habiller comme Guillaume Meurice pour faire homme du peuple.
Non, quand même pas, mais enfin, le costume Gucci, c'est peut-être un peu too much.
Bah, excusez-moi de vous déranger, mais on peut commencer la maraude,
mais... Bien sûr, maraudon.
Bon, alors je vous présente Anne, elle dort dans la rue depuis un an et demi.
Bonjour madame.
Bonjour monsieur, vous êtes bien habillée.
Ah bah voyez, ça lui fait plaisir.
Oui bah retournez-lui le compliment là.
Ah bah oui mais là, non. Alors je vais poser une autre question. Alors vous vivez ici, hein, c'est ça?
Bah, ça me paraît clair quand même. Il y a une tente, un duvet.
Très bon choix, très bon choix. Hein, c'est quand même un très beau quartier de Paris.
Oui, ben, le seul problème, c'est que c'est pas très bien isolé ici, quoi.
Non, ce qui veut dire, c'est que ça doit pas être facile tous les jours.
Ah non, ça je vous le confirme.
Et au niveau de la taxe d'habitation, elle est élevée ici?
Non, mais monsieur le président, enfin...
Non, mais je m'intéresse aux gens. Oh. Et c'est pas bon, alors je comprends
c'est
pas.
C'est que les SDF ne paient la taxe d'habitation, monsieur.
Ah bon, bah, vous avez de la chance.
Eh bah, si vous le dites.
Hein. Non, parce que la taxe d'habitation, ça nous rapporte un pognon de dingue, ça. Pognon qu'on pourrait vous faire ruisseler, d'ailleurs.
Et pourquoi pas, vous ne nous donnez pas, quand même.
Bah, et sinon, qu'est-ce que vous mangez?
Ben, parfois, je trouve des trucs à manger. La benne est là.
Non, pas Benalla. Il est SDF, Benalla?
Et sinon, vous m'avez pas répondu par rapport au ruissellement, là.
Allez, on va passer à un autre candidat.
Un autre sans domicile, vous voulez dire?
Oui, pardon, excusez-moi. Oui.
Attendez, excusez-moi, monsieur le président.
Oui, bien sûr, oui, on est venu pour ça. La photo, c'est ça?
Est-ce que vous pouvez poser votre main sur son épaule quand vous lui parlez?
Aïe, mais j'ai pas tous mes vaccins. Donc,
ça fait plus proche du peuple.
Et vous êtes sûr? C'est pas un peu condescendant?
Ah ouais, ouais, vous avez raison. Mettez la main sur son bras plutôt.
Ouais, là, comme ça?
Voilà, c'est bien mieux.
Et sinon, pour le ruissellement.
Et sinon, vous avez essayé de traverser la rue?
Merci Juliette Binoche d'avoir joué le jeu et d'avoir passé cette heure avec nous. Merci. Où on a refait le monde, un monde meilleur pendant une heure.
Et nous on a joué avec Juliette Binoche. C'est quand même un peu classe.
Juliette Binoche, je vous rappelle, vous recommande chaudement le film qui s'intitule Celle que vous croyez de Safi Nebbou qui sort en salle mercredi avec la musique, soulignons-le, d'Ibrahim Maalouf. Ouais. Merci beaucoup Juliette Binoche.
Merci.
Et on va vous laisser le mot de la fin.
Si on ne peut pas sauter dans la piscine, c'est difficile. Ouais. Hein, on ne peut pas rester au bord. Si on a peur de ridicule, il vaut mieux changer de métier. D'ailleurs, de certains matins, je me le dis.